Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Gérard Dellinger. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Dellinger, vous êtes ici pour présenter la COPREF et aussi pour nous annoncer les journées hydrogène et de la transition énergétique qui auront lieu donc les 18 et 19 septembre, ce week-end, vendredi et samedi, à Saint-Julien-en-Quin.
Exact. Alors, à Saint-Julien-en-Quin, et également avec une présence à la remise des dossards de la Dromoise à Die, où nous aurons un stand avec un ou deux vélos hydrogène.
Lors de ce week-end dédié à la Dromoise.
Oui, exactement.
Et votre présence sera effective en quel lieu ?
Nous aurons une tente qui aura lieu à Méros, qui sera présente à Méros, et dans laquelle on sera présent pour donner éventuellement telle ou telle explication qui serait souhaitée.
Ça sera l'occasion de découvrir ce type de bicyclette. Est-ce que ça en impose visuellement sur cette bicyclette l'énergie à l'hydrogène ?
Eh bien, écoutez, j'en ai essayé une il y a 15 jours à Saint-Julien-en-Quin. C'est un vélo qui s'apparente à un vélo électrique. Simplement le fait qu'il n'y a pas ces batteries qui sont lourdes, donc simplement un réservoir d'hydrogène. Et l'ensemble des équipements, à savoir le moteur et la pile à combustible, est très concentré vers le bas. Donc c'est un vélo qui a une grande stabilité. Le centre de gravité est relativement bas et on a l'impression d'avoir quelque chose de sûr entre les mains.
Voilà. Ce prototype ou ces prototypes qui vont être présentés ont été créés où ?
Alors, ce sont des vélos qui ont été créés par une société française qui s'appelle Pragma, et qui est à Biarritz, qui a introduit un certain nombre d'innovations parce qu'ils ne se sont pas contentés de reprendre le châssis d'un vélo normal. Ils ont retravaillé l'ensemble et les vélos que vous allez voir sont plus que des prototypes. Il faut savoir que lors d'un congrès qui a eu lieu à Biarritz, par exemple, l'un des présidents d'un pays d'Amérique du Sud, je crois que c'est le Pérou, en a commandé une centaine. Donc on voit que c'est opérationnel. C'est français, c'est... à ma connaissance, actuellement, le seul producteur au monde qui sorte des vélos de ce genre.
Donc, ces journées, troisième édition, hein, nous vous avions reçu les deux précédentes années pour présenter les années respectives. Et pour cette année, donc, il y aura cette présentation de vélos et aussi des ateliers pédagogiques sur la transition énergétique. Oui. Ensuite, il y aura des visites d'installations solaires, des itinérances chez les particuliers autour de la sobriété énergétique, des projections, des débats, des repas et des apéros. Concert. Cela commence vendredi 18 septembre à Saint-Julien-en-Quin avec les essais de vélo à hydrogène et ça à partir de 10h.
Oui. Si vous voulez, je vais peut-être revenir sur la présentation que vous avez faite en précisant la manière dont nous avons évolué dans ces journées hydrogène. La première année, ça a été une sensibilisation au vecteur hydrogène, qui est un vecteur d'énergie particulièrement polyvalent, puisqu'il peut servir au stockage, à la mobilité, à une mobilité totalement décarbonée, et que, au fil du temps, il se conserve dans les stockages sans perte et sans entretien. Donc c'est disons, un gaz extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs le gaz le plus répandu sur la planète. Voilà. La deuxième année, c'est-à-dire l'année dernière, la deuxième édition, nous l'avons axée sur les applications de l'hydrogène, d'abord dans le monde, une première table ronde dans le monde entier. Donc, un des ingénieurs avec qui nous travaillons, un ingénieur du LESRA et du CEA, avec qui nous travaillons, a expliqué comment mondialement on utilisait l'hydrogène. La deuxième table ronde citait des applications régionales de cette énergie, et notamment pour la mobilité. Et là, la région est venue expliquer son grand projet ZEV, c'est-à-dire Zéro Émission Vallée, qui consiste à mailler d'une vingtaine de stations les autoroutes entre Genève à Barcelone et en transversale de Clermont-Ferrand à Chamonix ou à Grenoble. Enfin bref, une transversale ouest-est. Donc ça a été exposé. C'est des choses qui sont en route, c'est des choses qui ont commencé à voir le jour. Et puis, la troisième table ronde était chargée d'expliquer ce qui existe déjà comme moyen pour l'hydrogène, à savoir les stations, à savoir les fournisseurs de matériel, d'équipement, de voitures, de vélos, également de groupes électrogènes qui marchent à l'hydrogène, qui sont particulièrement silencieux. Voilà, la quatrième table ronde était destinée à indiquer les procédés de production, plus ou moins propres, plus ou moins verts. Et enfin, la cinquième, c'était de dire, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on sait tout ça? Et là, nous avons parlé d'un projet qui nous tient à cœur, qu'on a lancé il y a 2 ans et quelques, en disant à la région, vous avez un superbe projet ZEV, mais on aimerait bien qu'il y ait également quelque chose dans les territoires ruraux, parce que nos territoires ne peuvent pas rester à l'écart du progrès technique. Nos enfants vont en ville, ils apprennent des choses, ils ont des certificats, ils ont des diplômes, ils reviennent, ils n'ont aucun travail qui correspond à ce qu'ils ont appris. Donc il est important qu'on ne décroche pas. Et il nous a semblé, avec plusieurs collègues maires, d'ailleurs je ne suis pas seul à partager ce point de vue, que la transition énergétique était justement un des moyens de créer des emplois assez diversifiés, non délocalisables. Voilà, c'est cette réflexion-là qui a été l'objet de la cinquième table ronde. Et puis cette année, donc après des réunions dans les différentes communes, on nous a dit, mais oui, votre affaire, vos explications, aussi bien sur l'autoconsommation que sur l'hydrogène, c'est quand même un peu abstrait, c'est quand même un peu technique. Y a-t-il moyen de simplifier tout ça? Donc, ACOPREV s'est mis en cheville avec la boutique des sciences de l'Université de Lyon. Et c'est une stagiaire, une étudiante en Master 2, qui a travaillé pendant 6 mois avec nous pour rendre ces termes un peu plus compréhensibles pour les enfants des écoles, pour le grand public, voilà, pour tous nos concitoyens qui sont intéressés par ces problèmes.
Il y a trace de ces entretiens, de ces tables rondes sur ces 2 dernières années, ou comment vous entretenez la mémoire de ces activités, de ces journées?
Eh bien, l'an dernier, on avait un enregistrement. Je ne sais pas où il est classé exactement, pour tout vous dire.
Non, mais
mais
pour...
je sais qu'il a été fait. Voilà, oui. Voilà. Donc on a une mémoire très précise de ce qui s'est dit l'an dernier. Et puis, ben, l'important, ce n'est pas seulement ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait.
Oui.
Et quand ça ne se traduit pas dans des réalités tangibles, je pense que les citoyens ont du mal à comprendre. C'est un peu pour ça que cette année, on a axé ça sur une grande participation des citoyens, sur des ateliers pédagogiques, et qui vont aller jusqu'à des classes primaires à qui on expliquera un peu comment ça se passe. On a une petite maquette qui sera présentée, qui montrera comment on peut transformer soit à partir de l'éolien, soit à partir du photovoltaïque, l'énergie en hydrogène, en passant par l'électrolyse. Et puis on verra donc une voiture, une petite voiture de maquette circulée. Et puis enfin, l'opération retour également de retransformer cet hydrogène en électricité.
Cet hydrogène a des contraintes de stockage et aussi d'utilisation. Est-ce que c'est à la portée de tous par rapport à cette entreprise de Biarritz qui crée des bicyclettes à l'hydrogène? Oui. Quels agréments elle a pu avoir pour pouvoir les construire? Est-ce qu'il y a des complications encore administratives pour se lancer? J'imagine un peu comme les premiers coucous volants. Il y en a eu une multitude. Est-ce qu'on peut l'imaginer pareil pour les bicyclettes à hydrogène ou de chaque localité, des personnes essayent de trouver un prototype?
Oui, vous avez raison. L'utilisation d'un gaz comme l'hydrogène nécessite quelques précautions, comme l'utilisation de tous les gaz d'ailleurs. N'oublions pas que l'hydrogène avait partie du gaz de ville pendant tout un temps que nos grands-parents utilisaient. À partir des gazogènes. Voilà. Donc, c'est un gaz qui mérite qu'on lui apporte les précautions voulues. Mais c'est un gaz très volatile. Il faut savoir qu'un kilo d'hydrogène, du point de vue énergétique, c'est l'équivalent de 3 kilos de pétrole. C'est également un volume de 11 mètres cubes. 11 mètres cubes, c'est à peu près l'arrière d'une fourgonnette. Donc il est bien compréhensible qu'on ne peut pas l'utiliser en l'état. Donc on est obligé de le comprimer. Et les valeurs de compression actuellement sont pour les vélos de l'ordre de 200 à 300 bars, c'est-à-dire des kilos par centimètre carré. Et puis pour les voitures de 350, ça a été normalisé à 350 et 700 bars. Voilà. Mais ceci étant, la connectique est maintenant au point. On craint beaucoup, disons, des explosions, des choses comme ça. Quand c'est en milieu confiné, ça peut être dangereux, comme tous les gaz. Si vous laissez votre cuisinière à gaz allumée, et puis sans la mettre à feu, il y a un moment donné où ça se passe mal. Donc, l'hydrogène, c'est pareil. Avec cet avantage tout de même que si le milieu n'est pas confiné, le gaz se dilue extrêmement rapidement étant donné sa légèreté.
C'est un gaz odorant ?
Non.
D'accord. Parce que le gaz de ville, je crois qu'il était obligé d'y ajouter un actif odorant,
exact.
De manière à pouvoir le détecter, parce que sinon, c'était beaucoup de danger en plus. Peut-être une idée de parfumer cet hydrogène, ça c'est...
Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas une idée dans l'air.
Ça serait aux couleurs locales. Un peu de lavande ici, par exemple.
À la lavande, ouais. Pourquoi pas.
Et donc... Mis à part le transport décarboné, énergie décarbonée, il y a aussi des expérimentations chez l'habitant qui se pratiquent depuis quelques années maintenant. Qu'en est-il ?
Alors, ceci, c'est un projet d'autoconsommation collective. Nous sommes le premier, un site pilote européen, on a acquis cette qualité, de site pilote européen pour l'autoconsommation collective en milieu rural. Actuellement, la toiture qui est consacrée à cette fin est terminée. Et non seulement elle est terminée, mais je vous annonce une première, elle est mise en route aujourd'hui. Donc actuellement, il y a 26 abonnés qui sont également donc des adhérents, non seulement des adhérents, des actionnaires de la centrale villageoise, qui sont actuellement fournis en électricité produite sur place. Donc on voit que c'est un circuit très court. Alors, malheureusement, la nuit, on ne peut pas encore faire. Mais on se préoccupe de trouver, à un moment donné, les stockages, les variantes. Notre but n'étant pas de concurrencer EDF, c'est pas du tout ça, c'est pas la même échelle. Et puis, on n'a aucun intérêt à faire ça. Il faut jouer la complémentarité entre un grand réseau public relativement centralisé, mais aussi une énergie produite localement, en circuit court, avec, je dirais pas le contrôle, mais la participation des citoyens qui peuvent éventuellement influer sur telle utilisation. Parce qu'on sait très bien que l'énergie, c'est pas seulement ce que l'on consomme, ça peut être aussi ce que l'on économise en consommation. C'est pour ça que les deux problèmes sont très liés et que finalement, avec l'association Valdequin, on a fait visiter les efforts qui sont faits par les habitants pour justement consommer moins également. Autrement dit, dans notre grand projet de produire un réseau sur les 6 communes de la centrale villageoise, à savoir celles, les 4 du Val-de-Quin, plus Marignac, plus Ponet-Saint-Aubin, c'est environ 2600 MWh de consommation par an. Nous avons prévu de faire des économies pour ramener cette consommation à 2000 MWh par an. Donc c'est un effort conséquent. Et donc, nos investissements sont prévus pour ça.
Et au niveau de l'hydrogène, il n'y a pas d'avancée vraiment encore
Pas sur le stockage. On incorporera le stockage quand les prix du stockage auront baissé. Actuellement, ça va très très vite. Des choses qui nous étaient données à 400 000 euros il y a 2 ans, sont descendus l'année dernière à 200 000, et le prix visé dans les futurs immédiats, ça va être de l'ordre de 100 000 euros.
Donc ça, c'est autour de la visite chez l'habitant, hein, qui sera opérée sur 6 communes.
Oui.
Vous avez aussi un rendez-vous, un forum des professionnels de la vallée autour de la sobriété énergétique. Et quels sont les professionnels qui peuvent être intéressés sur cette transition?
Alors, c'est des gens qui font de l'équipement d'isolation des maisons, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des bâtiments. C'est principalement, si vous voulez, ces personnes-là qui s'occupent d'isolation.
Il y a un circuit aussi qui se déroulera sur le territoire de Quin avec des visites qui concernent la construction, la rénovation et l'isolation thermique.
Tout à fait. Disons que ça, c'est le deuxième jour, c'est le samedi. Et pendant ce temps, toute la partie hydrogène, le stand à Coprev Hydrogène sera à 10. Au départ à la remise des dossards de la Dromoise.
L'actualité aussi, c'est l'annonce par le gouvernement d'un plan de relance économique dont 7 milliards sont dédiés à l'hydrogène. Comment avez-vous perçu cette annonce?
Eh bien, on l'a perçu très positivement, je ne vous le cache pas. Maintenant, qu'est-ce qui va retomber pour nous? On a déjà déposé un dossier à la région et qui est intégré dans un projet européen qui s'appelle Hub H2Aura, le trajet ZERT, oui, entre Valence et Grenoble, également avec une extension à Nyons, donc qui traverse la Biovallée, le Diois, les parcs régionaux, naturels régionaux, du Vercors et des Baronnies, pour relier Grenoble. Donc ce dossier a été intégré à un projet régional et on attend maintenant les retours.
La région elle-même perçoit ces subventions ou cette somme à distribuer? C'est au niveau européen que ça se fait?
C'est pas de la distribution. Excusez-moi, ce serait bien si c'était de la distribution. Mais c'est des investissements, c'est prévu pour des investissements. Alors, il y aura une part d'exploitation également, mais c'est surtout des investissements.
D'accord. Donc là, pour l'instant, vous ne connaissez pas trop ce qui peut se produire avec cette relance de 7 milliards.
Eh bien, je pense que ça va amplifier le mouvement dans deux directions. D'une part, et là, disons, les communautés de communes de la Biovallée s'en occupent, notamment la communauté de communes de Heure, j'en serai, qui est de dire, ben, on va, à partir de ce projet, peut-être densifier l'implantation des petites stations dans nos régions, dans le Parc, dans le Divois, dans la vallée de la Drôme. Et puis, par ailleurs, si ça a valeur d'exemple et si c'est contagieux, pourquoi pas d'étendre à d'autres zones plus méridionales de la Drôme ou plus au nord, à voir. Voilà. Donc ça se cherche un peu actuellement. Et il y a une rencontre à Valence ce soir qui, je pense, va apporter quelques éclaircissements dans ce domaine.
À quelle heure et où, précisément ?
C'est une réunion qui va débuter à 17h30, qui doit se terminer vers 19h, et qui a lieu dans le cadre d'un salon qui s'appelle Hypercute, qui est organisé par Valence Roman Aglo, avec qui nous travaillons évidemment en contact.
Il y a aussi des études menées par, sur les habitants, sur la transition énergétique. Donc ça serait une présentation de résultats pour vendredi à 17h. En quoi ça consiste ?
Oui, c'est très important ça. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'étudiante que nous avons sélectionné. Enfin, sur ce projet, on avait 24 candidatures. On n'avait pas vu ça depuis longtemps à l'Université de Lyon. Et notre choix a été difficile et on a retenu une étudiante, Marie Lopez-Ilazo, qui pendant 6 mois, malgré les grosses contraintes du Covid, a tout de même réussi à mener à bien sa mission, qui est d'une part de connaître, de comprendre ce que les gens n'ont pas compris dans le langage technique, et puis de donner également du sens à l'action que l'on mène. C'est vrai que s'il n'y a pas de sens, la compréhension est beaucoup plus difficile. Et donc elle rendra compte des travaux qu'elle a faits. On pense accueillir quelques professeurs de la Sorbonne qui sont annoncés, et également des professeurs de l'Université de Lyon, quelques étudiants également, qui viendront voir les conclusions qu'elle exposera ce jour-là. Alors après, je pense qu'on a mis l'accent sur le dialogue, donc il y aura une heure qui sera consacrée à répondre à des questions que les personnes peuvent se poser, les citoyens ou les visiteurs. Et puis, une discussion ouverte, un échange avec les élus qui voudront bien venir. Madame de Lavergne a nous annoncé sa présence. D'autres vont certainement venir également. Enfin, je pense que l'important, c'est qu'il y ait ce dialogue et qu'on ne soit pas seul en tête, mais que derrière, il y ait également des gens qui participent.
Le public vis-à-vis de l'hydrogène, est-ce qu'il perçoit de plus en plus cet intérêt pour cette énergie décarbonée ? Vous le ressentez, vous, d'année en année ?
Ah oui, c'est clair que de plus en plus, on a des questions là-dessus. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu vois ça comme ça ? Quel est l'intérêt ? Par exemple, prenons l'exemple d'une voiture, le Kangoo. Le Kangoo, c'était une voiture, enfin, sauf trou de mémoire, mais c'est de l'ordre de 180 km d'autonomie en électrique. Bon, si vous lui ajoutez un prolongateur d'autonomie en hydrogène, c'est à peu près 1,7 kg, un kilo d'hydrogène, il est capable de doubler cette autonomie. Bon, on voit bien tout l'avantage qu'il en résulte dans nos régions de montagne. Et par exemple, à Saint-Jean-Royan, le centre social distribue des repas aux personnes à domicile avec ce type de véhicule qui, en plus, est équipé d'une chambre réfrigérée. Donc, je dirais que les accidents de parcours, les montées, les descentes, tout ça, ça ne pose pas de problème pour eux. Ce qui n'est pas toujours le cas pour la voiture électrique, surtout en hiver où les accus à moins 6 degrés ont une capacité bien moindre. Et disons que quand on monte au col du Rousset, dans les derniers virages, en hiver, il y a intérêt à couper le chauffage. Voilà. Donc, si vous voulez, autre avantage, c'est que l'hydrogène se recharge en 1, 2, 3 minutes, suivant la pression de la pompe et le degré d'équipement, alors qu'il faut un certain nombre d'heures pour ce qui est électrique. Alors, on nous dit qu'il y a des recharges rapides, ça va aller. Ouais, mais les recharges rapides, il n'est pas dit que ça ne se fasse pas au détriment du cycle de vie de la batterie. Jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. Alors, on n'arrête pas l'innovation. Donc, il y aura certainement des batteries qui se contenteront d'un temps de recharge plus court, c'est probable. Mais enfin, ça reste. Il y a une différence énorme, quand même.
Est-ce qu'on domine bien la production de l'hydrogène en France quelle est la portée ou à quel moment peut-on accéder à cette production d'hydrogène?
Alors, voilà, la discussion porte beaucoup là-dessus. On nous dit, mais l'hydrogène, c'est un produit carboné. Non, l'hydrogène lui-même n'a pas de carbone, mais il résulte à presque 90% de la production de deux types d'industries. D'une part, les plateformes de reforming du brut. Quand on distille du brut, il se dégage des fractions légères, des fractions un peu plus lourdes, l'essence, le gasoil, le kérosène, bref. Et obligatoirement de l'hydrogène. Donc c'est un hydrogène qu'on peut dire fatal. Alors on ne peut pas dire qu'il est noir, puisque on ne l'a pas fabriqué exprès pour ça. Il vient spontanément lors de ce genre de choses. Il en est de même pour l'industrie de production des engrais ammoniaqués, où on dégage de l'hydrogène. Alors, actuellement, des recherches sont en cours pour le capter. Donc au pire, on peut dire que c'est un hydrogène gris, mais enfin, voilà. Et plutôt que de le laisser perdre, autant l'utiliser quand même. C'est l'objet des recherches en cours.
Et de ce plan de 7 milliards, qui serait certainement une somme nécessaire pour ça?
Non, les 7 milliards seront consacrés, si j'ai bien compris, beaucoup à l'extension des électrolyseurs, c'est-à-dire de produire un hydrogène qui soit intégralement vert. Donc à partir de sources électriques qui peuvent être des barrages, ça peut être l'énergie solaire, et puis ça peut être aussi, il ne faut pas se voiler la face, ça peut être aussi une part d'énergie nucléaire. Parce que l'énergie nucléaire, elle est dangereuse peut-être, mais elle est verte, elle est décarbonée.
Et voilà, donc je rappelle aux auditeurs les 18 et 19 septembre, ce week-end, dans la vallée de Quin, Saint-Julien-en-Quin, Saint-Andéol, Vachard-en-Quin, Sainte-Croix, Marignac et Poney-Saint-Auban, les journées hydrogène et de la transition énergétique. Et pour ça, est-ce qu'il existe un site internet?
Oui, vous pouvez aller sur le site www.acoprev.fr. Vous pouvez aller également sur le site de Centrale Villageoise, Acoprev Centrale Villageoise.
Et puis, ce samedi clôturera à partir de 18h ce long week-end avec un apéro-concert et aussi à partir de 19h un ciné-débat avec une projection de La Belle Verte de Colline Serrault. Quelles sont les activités d'Acoprev auprès du public tout au long de l'année ?
Eh bien, les activités, c'est l'information d'abord. Nous avons toutes les semaines un exécutif qui se réunit pour faire le point. Nous avons tous les mois un conseil de gestion qui se tient dans les différentes communes à tour de rôle. Et puis, nous sortons, suivant les années, 4 à 5 bulletins d'information qui sont sur le site. Et tous nos sociétaires reçoivent en lettres individuelles ce bulletin d'information.
Monsieur Gérard Délinger, je vous remercie donc d'être venu nous présenter ce week-end les journées hydrogène.
Eh bien, écoutez, c'est avec plaisir. Et ben, je vous souhaite de vous y voir. À très bientôt. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.